Nous vous souhaitons à tous une très chaleureuse bienvenue au nom précieux du Seigneur. Nous nous souhaitons mutuellement la bénédiction de Dieu et une nouvelle rencontre avec Dieu, afin qu'il puisse nous parler à nouveau par sa parole et par son esprit, qu'il anime son œuvre, qu'il la vivifie et que nous puissions puiser à nouveau à sa source, grâce sur grâce. Puis-je demander qui est ici pour la première fois aujourd'hui, levez brièvement la main. Y en a-t-il? Bienvenue. Et nous le disons toujours et partout, que cette première fois ne soit pas la dernière. La première fois, on entend peut-être beaucoup de choses nouvelles, et ce n'est qu'au fil des autres fois qu'on peut les mettre en perspective. Nous pensons ici à un passage de l'Écriture, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Lisons ici les versets 3 et 4. Deutéronome chapitre 8. Oui, peut-être aussi le verset 5 et 6. Ça ira vite. Deutéronome 8, versets 3 à 6. Il t'a donc humilié et t'a fait souffrir de la faim, puis il t'a de nouveau nourri de la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connu, afin de te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Verset 4. Les vêtements que tu portais ne se sont pas usés, et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Verset 5. Reconnais donc dans ton cœur que le Seigneur, ton Dieu, est ton éducateur, tout comme un père éduque son fils. Verset 6. Et observe les commandements du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Je voudrais encore lire le verset 45 et 46 du chapitre 32 de Deutéronome. Deutéronome 32, verset 45 et 46. Verset 45, Deutéronome 32. Lorsque Moïse eut récité tout ce cantique à tous les Israélites jusqu'à la fin, verset 46, il leur dit, « Prenez à cœur toutes ces paroles que je vous recommande solennellement aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils veillent à observer scrupuleusement toutes les dispositions de cette loi. » Et puis vient le verset 47. « Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie en dépend. Et c'est en observant cette parole que vous obtiendrez une longue existence dans le pays où vous allez maintenant passer le Jourdain pour en prendre possession. » Combien de passages pourrais-je citer à ce sujet? Et je crois que nous avons compris de quoi il s'agit. Il s'agit de la parole de Dieu, dans laquelle se cache d'une part tout le destin de la rédemption de notre Dieu et où il est révélé d'autre part. D'autre part, beaucoup possèdent la Bible. Des millions de personnes possèdent la Bible. Mais elles n'ont aucune révélation concernant Dieu et la parole de Dieu. Elles se font leurs propres pensées sur la parole et ils restent pour la plupart jusqu'à la fin de leur vie. La grâce que Dieu accorde aux siens consiste à le reconnaître, à comprendre son plan pour l'humanité et à prendre à cœur la parole telle que nous l'avons entendue et lu par la révélation. Et puis, bien sûr, à ne rien ajouter à sa parole, ni rien en retrancher, mais simplement à la laisser telle qu'elle, dans le contexte où Dieu l'a placée. Nous avons d'ailleurs eu aujourd'hui une conversation dans cette maison avec quelques frères et je crois que pour nous tous qui sommes encore ici, une chose nous est apparue avec une nouvelle intensité. Ne rien ajouter à la parole et n'en rien retrancher, mais simplement tout laisser tel que Dieu l'a donné. Mais nous constatons aussi à maintes reprises que tout le monde ne devrait pas se mettre d'être enseignant. Jacques écrit dans Jacques 3, verset 1, « Nous les enseignants, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. » J'ai ici une citation du frère Branham tirée de ses deux prédications sur l'introduction au sceau, plus précisément de la première prédication intitulée « Dieu caché et révélé dans la simplicité ». À la page 15, il dit ce qui suit. Ce soir, nous voulons parler du lien entre les âges de l'Église et la révélation des sceaux. Il y a un grand fossé entre les deux. Lorsque j'ai terminé avec les sept âges de l'Église, j'ai immédiatement parlé des 70 semaines de Daniel, car cela en fait partie. J'avais dit à l'époque, si jamais je dois parler des sept sceaux, je devrais d'abord parler des 70 semaines de Daniel, afin de faire le lien avec les sceaux. Mais il reste encore le chapitre 5 de l'Apocalypse avec le livre scellé dont nous voulons parler ce soir. Encore un paragraphe. Nous sommes en pleine instruction et vous pouvez comprendre quel effort considérable cela représente pour moi, car si j'enseigne quelque chose de faux, je devrais en rendre compte. Je ne peux donc pas reprendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Cela doit être inspiré. Et je crois que les sept anges qui tiennent les sept tonnerres le permettront. C'est pour cette dernière ligne, pour cette dernière phrase que j'ai en fait lu tout ce que j'ai lu. Il est vrai que certains frères, sans que nous voulions pour autant porter de jugement, n'ont vraiment pas compris ce que frère Branham a dit. Et je tiens à le préciser, frère Kupfer m'a attiré l'attention là-dessus, je l'ai écrit dans la lettre circulaire de décembre 1988. Je pense que tout le monde peut le lire très clairement là-dedans. J'ai peut-être une question. Les choses que nous exposons par écrit sont-elles suffisamment claires et compréhensibles pour tout le monde? Est-ce le cas? Je crois que celui qui a fait l'expérience de la grâce de Dieu et qui est conduit dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu n'aura aucune difficulté à suivre ces explications, car elles sont tout simplement convaincantes d'un point de vue scripturaire, parlent d'elles-mêmes et fournissent des éclaircissements sur ce que nous exposons. J'ai noté 3 sermons de frère Branham, à savoir le sermon « Avoir honte de lui » et puis le sermon « Rendre un service à Dieu » et le sermon « Événement d'actualité ». Je me suis contenté de prendre ces 3-là et j'y ai relu la manière dont frère Branham fait référence aux 7 anges qui sont descendus dans le nuage surnaturel le 28 février 1963, lorsqu'il lui a été dit « Retourne à Jeffersonville, car l'heure est venue d'ouvrir les 7 sceaux. » Et comme un tonnerre si puissant a retenti en 7 étape, lorsque cela s'est produit, il a sans cesse associé cet événement aux anges et aux 7 tonnerres. Et les frères, qui ne font pas preuve de rigueur et qui n'approfondissent pas la question, n'entendent que 7 tonnerres. Et ensuite, ils sautent directement à Apocalypse 10 et se mettent à donner des coups de tonnerre sans avoir la moindre idée du contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. Et puis frère Branham dit, les 7 anges détiennent le mystère des 7 tonnerres. Et ensuite, ils se précipitent à nouveau sur le chapitre 10 de l'Apocalypse sans se rendre compte que cela n'a rien à voir avec ce chapitre 10 d'Apocalypse. Et je vais le dire clairement, nous sommes simplement là pour donner raison à Dieu, pas à nous, pas à moi, pas à toi, mais uniquement pour donner raison à Dieu. Nous en avons le droit et Dieu l'a d'autant plus. Nous devons simplement savoir que lors de la descente ou du mandat confié à frère Branham avant l'ouverture des sceaux, Apocalypse 10 ne pouvait en aucun cas être accompli, car là, le Seigneur vient en tant qu'ange de l'Alliance et tient déjà le livre ouvert dans sa main. Avant l'ouverture des sceaux, il n'avait encore aucun livre en main, ni fermé, ni ouvert. Il faut aussi respecter la chronologie des Saintes Écritures et savoir selon quel ordre divin les choses doivent se dérouler. Ici, frère Branham dit, il reste encore le chapitre 5 de l'Apocalypse avec le livre scellé. Donc, le livre était donc encore scellé ce jour-là, le 17 mars, lorsqu'il a commencé à prêcher cette série de sermons. Dans Apocalypse 10, il est ouvert, et ce ne sont pas 7 anges qui viennent avec un livre ouvert, mais le Seigneur qui vient en tant qu'ange de l'Alliance avec le livre ouvert, puis pose le pied sur la terre et sur la mer et proclame que le temps ne sera plus. Je crois que c'est très très important, car comme je viens de le dire, en ce lieu, dans le respect de Dieu, nous n'avons qu'une seule tâche, partager correctement la parole de Dieu et rendre justice à Dieu, lui donner raison en toutes choses. Et bien sûr, si quelqu'un comparait les contextes et les paroles entre eux et savait à quoi ils se rapportent, alors tout irait bien. Mais je m'en tiendrai là sur ce sujet qui a été brièvement évoqué aujourd'hui. Je me reproche personnellement de ne pas en avoir dit assez, mais d'un autre côté, Les vérités bibliques ne s'annoncent pas dans les discussions, mais dans la prédication. Non pas dans les débats, mais par la proclamation ouverte en public de la parole de Dieu. Et alors que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ce passage de l'Apocalypse 10, je ne lis que ce verset pour nous montrer que ce qui avait été ouvert ou dit a ensuite été scellé. Apocalypse chapitre 10, verset 4. Verset 4, Apocalypse 10, verset 4. Lorsque les sept tonnerres eurent parlé, je voulais écrire, mais j'ai entendu une voix qui du ciel me cria, scelle ce que les sept tonnerres ont dit et ne l'écris pas. Je tiens à préciser et à conclure ceci. Lorsque frère Branham parle des sept tonnerres et y associe quoi que ce soit à cela, il fait référence à l'expérience de la détonation. Vous savez bien que les arbres dont les cimes ont été sciées, que les rochers se sont fissurés, que les pierres ont dévalé la pente. Ce fut une expérience impressionnante. Tout le paysage a été secoué par ce qui s'est passé là-bas. Et frère Branham a frappé sept fois de suite sur le pupitre et a dit, c'est ainsi que les sept tonnerres ont retenti les uns après les autres. Insistons encore une fois. Ce n'était pas les sept tonnerres du chapitre 10 de l'Apocalypse, mais cela s'est produit en lien avec cet événement lorsque le nuage surnaturel est apparu et qu'il a reçu pour ordre de retourner à Jeffersonville afin de parler ensuite des sceaux. Je pense que je vous dois bien cela à tous, car on entend toutes sortes de choses et puis se pose toujours la question de savoir si en ce lieu nous croyons de tout cœur au ministère du frère Branham à 100%. Mais nous croyons tout autant à 100% que nous devons ramener tout ce qu'il a enseigné aux Écritures et que c'est là que nous chercherons et trouverons notre absolu. C'est ce qu'a dit le frère Branham. Le frère Rousse vient d'en parler. Il a dit, mon absolu, c'est la parole. Et là, il a levé la Bible en disant cela, à ce moment-là bien précis. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, à cet endroit. Mais comme je l'ai dit, ce qui compte en effet, ce n'est pas seulement d'écouter la musique, mais de savoir ce qui est joué, de discerner les liens. Et pour cela, il sera probablement nécessaire que Dieu établisse dans l'Église. Il ne s'agit pas de s'approprier une tâche ou un ministère en se disant, ce qu'il sait faire, je sais le faire aussi, et ce qu'il fait, je le ferai aussi. Non, cela ne doit pas se passer ainsi. Il faut simplement savoir attendre d'être établi par Dieu lui-même lorsqu'il s'agit d'un ordre relevant de l'histoire du salut, d'un appel, d'un mandat. Et nous croyons que nous participons effectivement maintenant à l'histoire du salut en ce moment même. Oui, que nous faisons partie de l'histoire divine du salut en ces jours-ci, tout comme Israël fait partie de l'histoire divine du salut. Il y a en effet les deux. Il y a l'Église issue des nations et puis il y a le peuple d'Israël vers lequel Dieu s'est tourné par l'intermédiaire d'Abraham, d'Isaac et Jacob, puis par les 12 tribus jusqu'à notre époque. Et en ce qui concerne l'actualité, nous avons quelques remarques à faire à ce sujet. Avant de le faire, je voudrais lire un passage du psaume 121. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset 2. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Ton gardien ne sommeille pas. Non, le gardien d'Israël ne sommeille pas et ne dort pas. Verset 5. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Verset 6. Afin que le soleil ne te frappe pas pendant le jour ni la lune pendant la nuit. Verset 7. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Verset 8. Le Seigneur garde tes départs et tes arrivées dès maintenant et pour l'éternité. Dieu est tout simplement le Dieu de son peuple. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, il a conclu une alliance. Il s'est engagé et il tient ses promesses et accomplit ce qu'il a promis. Il est écrit ici, le Seigneur est ton gardien. Et le gardien d'Israël ne dort pas et ne sommeille pas. Il existe un autre passage qui dit également que le Seigneur ne dort pas, mais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce qu'on lit dans Jérémie au chapitre 1, au verset 12. Jérémie 1, verset 12. Verset 12. Alors le Seigneur me dit, tu as bien vu, oui, je veille sur ma parole pour la faire s'accomplir. Dieu a en effet tout fait prédire par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes. Ce qui se passe de nos jours a également été prédit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les tribulations et les épreuves, en particulier pour Israël, ont-elles aussi été prédites? Et lorsque nous pensons que des temps encore plus difficiles vont venir, comme il y en a déjà eu, cela nous attriste d'une part, mais d'autre part, nous savons, c'est ce que Dieu a dit, et c'est ainsi que cela arrivera. Lorsque nous observons la situation mondiale actuelle, nous voyons beaucoup de choses. Et nous pouvons nous rappeler mutuellement ce que notre Seigneur a dit dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc. Quand vous verrez tout cela arriver, relevez la tête, car votre rédemption approche. Et priez. Oui, je voudrais peut-être même lire cette parole et prier pour que vous soyez revêtus de la puissance afin d'échapper à tout cela. C'est également très important. Luc, chapitre 21, Luc, chapitre 21, verset 35 et 36. Luc 21, verset 35. Car ce jour, c'est-à-dire ce jour-là, s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Verset 36. Veillez donc en tout temps et priez pour que vous receviez la puissance pour échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Aux traductions, et de se tenir devant le Fils de l'homme. Il ne s'agit donc pas seulement ici d'un jour qui viendra sur l'humanité tout entière, mais du fait que les croyants doivent prier et veiller afin de recevoir la puissance dont nous avons besoin pour échapper à tout ce qui va s'abattre sur le monde. C'est cela qui doit être notre préoccupation principale. À quoi cela servirait-il si nous pouvions tout mettre en ordre avec l'Église, avec Israël et avec les nations, tout classé avant que ce jour n'arrive, mais que nous n'ayons pas reçu auparavant la puissance capable d'opérer notre rédemption corporelle et notre transformation? Cela deviendrait alors une connaissance qui pourrait se transformer en tourment et conduire à la déception. Prions encore plus sincèrement qu'auparavant pour que Dieu nous accorde la puissance dont nous avons besoin pour être enlevés de cette terre, pour être transformés afin d'être ensuite avec le Seigneur pour toujours. Nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises. Il se passe beaucoup de choses ces jours-ci et nous constatons que tout va toujours à l'encontre d'Israël. Il ne peut en être autrement, car il en était déjà ainsi dans l'Ancien Testament, et il en sera ainsi jusqu'au combat final, lorsque tous les peuples de la terre se rassembleront contre Jérusalem. Il y a quelques passages que nous pouvons lire concernant la dispersion du peuple d'Israël, ainsi que les souffrances qui lui ont été infligées. Je vais lire à ce sujet le chapitre 6 de Zacharie. Zacharie, chapitre 6, les 5 premiers versets. Zacharie 6, versets 1 à 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Or, ces montagnes étaient de bronze. Verset 2, le premier char était étalé à des chevaux roux, le deuxième à des chevaux noirs, le troisième à des chevaux blancs et le quatrième à des chevaux pis. Rouge, noir, blanc, pis, c'est-à-dire pâle, les trois couleurs. Mélanger quatre au total. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les quatre premiers sauts. Un cheval, un cavalier blanc, rouge, noir, puis vient le pâle, où ces trois premières couleurs sont mélangées. À propos de ces cavaliers, de ces chars et de ces chevaux et de tout ce qui s'y rapporte, voici ce qui est dit ensuite. Nous poursuivons la lecture à partir du verset 4. Zacharie 6, verset 4. Alors que je posais la question à l'ange qui me parlait, que signifie-t-il mon Seigneur? Verset 5. L'ange me répondit, ce sont les quatre vents du ciel qui s'en vont après s'être présentés devant le Seigneur de toute la terre. Retenons très brièvement l'expression « les quatre vents ». Passons à l'Apocalypse 7, chapitre 7, verset 1. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre extrémités de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous savons que cela n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait aujourd'hui un vent de force 5 ou 11. Il est question ici de manière prophétique de jugement. On y fait une déclaration prophétique qui n'a absolument rien à voir avec le souffle normal du vent, mais bien avec des jugements, etc. Cela est clairement exprimé au verset 2 et 3. Je vais lire le verset 3. Apocalypse 7, verset 3, ne causez aucun mal sur la terre, ni sur la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. Il ne doit donc y avoir aucune destruction tant que le scellement n'a pas eu lieu. Nous arrivons maintenant à l'Euphrate, où tout cela se passe et où Saddam Hussein exerce son pouvoir. Apocalypse, chapitre 9, verset 13. Et oui, peut-être 14. Apocalypse 9, verset 13 et 14. Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix provenant des quatre cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Verset 14. Qui ordonnait au sixième ange qui tenait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés près du grand fleuve l'Euphrate. Verset 15. Alors les quatre anges qui étaient prêts à l'heure, au jour, au mois et à l'année fixée furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Voici ce qui se passe en ces jours-ci. Là où règne le mal direct, là où réside la haine mortelle contre Israël, ces esprits liés se manifestent déjà, mais ils ne peuvent pas encore accomplir ce qu'ils voudraient accomplir. Même un chien qui aboie, s'il est attaché, il ne peut pas encore causer trop de dégâts. Il reste donc lié jusqu'au jour, jusqu'à l'heure où le sixième ange sonnera de la trompette. Avant cela, le malheur ne pourra pas s'abattre sur Israël. Et voyez, qu'avons-nous dit dès le début, lorsque ce conflit a éclaté? Tout le monde craignait que des armes chimiques ne soient utilisées. Le moment n'est pas encore venu pour cela. Elles ne seront utilisées conformément à Zacharie 12 que lors de la dernière bataille. Donc verset 12, donc Zacharie 14, verset 12. Ce n'est qu'alors que les yeux des hommes pourriront et tomberont ainsi que leur langue, etc. Zacharie 14, verset 12. Pas maintenant, et cela n'arrivera pas à Israël, mais à ceux qui attaqueront Israël. Il faut donc lire ces passages avec attention pour comprendre ce qui a été dit dans les paroles prophétiques. Ce qui nous afflige profondément, nous qui possédons des cartes d'identité et des passeports allemands et qui sommes donc de nationalité allemande, c'est le fait que ce sont une fois de plus des Allemands qui ont fourni le gaz et construit ces usines là-bas pour s'enrichir considérablement. Cela nous attriste énormément. Car nous avons encore en mémoire le nombre de Juifs gazés sous le Troisième Reich et tout ce qui s'est passé. Le monde entier a réagi à juste titre avec indignation. Nous vivons au cœur d'un pays, mais tout comme les autres, nous n'appartenons pas en premier lieu à un pays terrestre. Notre citoyenneté est dans les cieux. Nous sommes citoyens de Dieu et membres de la famille de Dieu. Et pourtant, ce que font les hommes d'affaires et les entrepreneurs nous attristent. D'un autre côté, nous sommes tous très reconnaissants de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les responsables politiques se sont rangés aux côtés d'Israël comme aucun autre pays au monde ne l'a fait. Les États-Unis en premier lieu, puis la République fédérale d'Allemagne en deuxième position. Nous nous en réjouissons, car celui qui bénit Israël sera béni par Dieu. J'ai ce qui devrait donner matière à réflexion à tout le monde, un tract intitulé le pape et Arafat. Que tout cela soit vrai à 100% ou non, il faut simplement laisser cela de côté. Voici ce qu'on y écrit. Au début des années 40, un jeune représentant commercial polonais employé par l'usine chimique IG Farben, le fabricant de cyanure, vendait ce produit. Voici la description complète selon laquelle cet homme qui règne aujourd'hui au Vatican aurait acheminé le poison jusqu'à Auschwitz. Je ne l'ai pas écrit. On me l'a simplement envoyé. Qu'avons-nous vu d'autre? Nous avons également constaté ceci, que les Juifs supplient le Vatican de les reconnaître. Avez-vous tous remarqué cela? Ils ne savent pas ce qu'ils font. D'un autre côté, l'Écriture doit aussi s'accomplir, en ce sens qu'une alliance sera alors conclue. Oui, mais une fois qu'elle sera conclue, il restera encore sept ans au total, et ces sept ans auront lieu après l'enlèvement. Alors, à quel point l'enlèvement doit-il être proche si les développements politiques prennent déjà forme sous nos yeux? Nous le voyons tous très très clairement, hein, et cela finira par arriver, car ce n'est pas seulement Arafat qui va et vient chez le pape. Les plus hauts dignitaires, qu'ils soient musulmans, hindous ou qui qu'ils soient, vont et viennent tous chez lui. Qu'avons-nous dit? Et que nous dit la parole de Dieu? C'est la ville, la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Apocalypse 17, 18. Et ce n'est pas New York ni Moscou. Ces villes ont toutes leurs propres difficultés. Celui qui forme ces hommes, à savoir les jésuites partout, on peut lire ici comment des jésuites sont infiltrés dans les milieux juifs et partout ailleurs pour ainsi dire poser les jalons. Les personnes bien informées savent tout ce qui se passe. Je dis ces choses uniquement pour attirer notre attention sur le fait que nous sommes bel et bien entrés dans la dernière époque de notre temps. Et l'appel, vous mon peuple, sortez du milieu d'elle, séparez-vous et ne touchez à rien d'impur, doit être lancé de plus en plus fort, de plus en plus clairement. 2 Corinthiens 6, 14. Et nous avons besoin de ces informations pour savoir où se trouve le véritable danger, que ce soit pour l'Église ou pour Israël, afin de savoir tout simplement où se trouve réellement l'ennemi juré. Cet homme ne s'est pas attribué cette fonction de lui-même. Il y a été placé. Il doit jouer un rôle qu'il n'a peut-être même pas voulu endosser. Mais il en a été ainsi pour Judas, il en a été ainsi pour d'autres qui devaient simplement jouer un rôle lié d'une manière ou d'une autre à l'ensemble des événements et qui s'y rattachaient. Il y a une chose que nous devons à nouveau souligner. Tout le poids de la religion, de l'économie et de la politique mondiale se concentrera ici dans cette Europe naissante régie par les traités de Rome, avec des sièges ici et là. Nous n'avons pas besoin de le préciser à chaque fois. C'est ici que les choses suivront leur cours, et ainsi nous pouvons affirmer avec certitude, comme je l'ai déjà dit, entendre tout à l'heure, que c'est précisément là que se fait la politique mondiale. Et le jour viendra où le pape obtiendra tout simplement l'autorisation pour l'État juif de construire son temple. On dit déjà aujourd'hui que c'est la ville des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et vous savez, lorsque les choses se rejoindront ainsi, il lui sera facile de dire, écoutez, nous sommes tous frères, vivons en paix les uns avec les autres. Il y a déjà les deux sanctuaires de l'islam. Il peut donc y en avoir un de plus. Et je dis cela parce qu'il est écrit dans Apocalypse 11, mesure le temple de Dieu et ceux qui y adorent, mais ne mesure pas le parvis, laisse-le de côté, car il sera livré aux païens. Je vais vous le lire. Pendant combien de temps il est écrit ici? Apocalypse 11, verset 2. Mais laisse de côté le parvis qui est à l'extérieur du temple et ne le mesure pas avec, car il est livré aux païens. Ceux-ci fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Combien de temps durant 42 mois? Exactement 3 ans et demi. C'est alors que l'alliance sera rompue, que les 144 000 reconnaîtront le Christ comme le Messie et démasqueront l'Antichrist qui viendra là pour inaugurer le temple et s'assiera ensuite comme s'il était Dieu. Il a d'ailleurs déjà la tenue qu'il faut pour cela, une robe blanche, peut-être aussi rose, qui sait, et c'est alors que survient cette rupture. J'ai lu une parole dans le prophète Daniel qui est très très importante à cet égard lorsque le sacrifice quotidien sera supprimé et que l'abomination de la désolation sera dressée. On le lit dans le chapitre 11 de Daniel. Daniel chapitre 11. Et puis vient au verset 32. Ce verset très important. Dans Daniel 11, verset 32. Par des paroles séduisantes, il incitera ceux qui transgressent l'alliance à la trahison. Il parlera la langue de chacun, puisqu'il maîtrise déjà plus de 50 langues. Tout naturellement, il dira aux musulmans ce qui leur fait plaisir d'entendre, et il en fera de même avec tous les autres. Il est dit ici, verset 32, par des paroles séduisantes, il incitera ceux qui transgressent l'alliance à la rompre. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu restera ferme et agira en conséquence. C'est déjà le cas aujourd'hui. Si nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, prenons à cœur toutes les paroles de l'alliance et prenons-les au sérieux. Ne les traitons pas à la légère en disant, oui, tous les hommes sont croyants, ils ont tous de bonnes intentions et ce sont tous des chrétiens. Non, ne procédons pas ainsi, mais donnons tout simplement raison à la parole et suivons le Seigneur. Et suivons le Seigneur. Au verset 33, on lit Daniel 11, verset 33. Et parmi le peuple, les sages amèneront beaucoup de gens à prendre conscience. Oui, qui sont ces sages? Mais seulement ceux à qui Dieu a donné par grâce la compréhension des Écritures et de l'accomplissement de la parole prophétique. Nous aussi, nous essayons d'amener beaucoup de gens à prendre conscience en proclamant les vérités bibliques que chacun est libre d'évaluer. Je relis le verset 33 encore une fois. Et parmi le peuple, les sages amèneront beaucoup de gens à prendre conscience, mais ils seront opprimés pendant un certain temps par l'épée et le feu, par la prison et le pillage. Puis au verset 35, même parmi les sages, certains périront afin qu'une purification, un tri et une épuration s'opèrent en eux jusqu'à la fin des temps, car le moment fixé n'est pas encore venu. À l'époque, on pouvait dire, le moment fixé pour le temps, pour la fin des temps, n'est pas encore venu. Maintenant, il est là. Nous vivons en plein cœur de la fin des temps, et comme nous l'avons souvent dit, non pas seulement au début, mais à la fin de la fin, des temps. Et nous pouvons remercier Dieu encore et encore, sans cesse, de nous avoir jugés digne d'entendre toutes ces choses qui comptent désormais et de nous avoir accordé par grâce le discernement. Si nous pouvons mentionner ici une fois encore que c'est par grâce que nous pouvons également reconnaître le ministère du frère Branham, à qui Dieu a en effet révélé tous les contextes de la parole prophétique, les liens. Et ce faisant, nous ne rendons pas hommage à des hommes, nous donnons raison à Dieu et nous le remercions de nous avoir fait connaître, comme autrefois au temps de Moïse, à qui il fut dit, ce ne sont pas des paroles vides de sens. Non, elles ont un sens. Elles vous engagent. Votre vie en dépend. Deutéronome 32, verset 47. Il en va de même de nos jours. Ce ne sont pas toutes ces interprétations, mais la parole de Dieu vivante, fraîchement révélée depuis le trône, qui fait la différence. C'est elle qui est devenue notre vie. Et non les interprétations. Pour certains, le message de Dieu est totalement dénué de sens et ils ne se rendent même pas compte qu'ils parlent du Saint-Esprit tout en se laissant emporter par l'esprit du temps et la masse, par l'esprit du siècle et la masse. Bien sûr, chacun a son apparence pieuse. Disons-le très clairement, pour une fois, celui qui n'écoute pas maintenant ce que l'Esprit dit aux églises et proclame par révélation prophétique, celui qui n'écoute pas le Christ qui marche au milieu des sept angeliers d'or, il devra écouter ce que l'Antichrist présente. Et les gens ne s'en rendront pas compte, mais penseront que c'est quelque chose de très important. Non, ce n'est pas quelque chose d'important. C'est la plus grande tromperie et l'heure de la tentation qui doit s'abattre sur le monde entier. Le Christ est ici et le Christ est là, disent-ils. Et tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde n'a qu'un seul Dieu et un seul Père. Il est écrit dans ma Bible qu'il est le Père de tous ceux qui sont appelés enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Qui est un fils ou une fille de Dieu? Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau pour une espérance vivante. Car d'un point de vue terrestre, nous sommes certes nés de la chair, et ce qui est de chair et de sang ne peut hériter du royaume de Dieu. Non, nous avons été engendrés et nous sommes nés de nouveau à l'image de Jésus, Christ par l'Esprit et la semence divine de la parole. Et ainsi, Dieu est notre Père. Et nous pouvons prier en toute sincérité et honnêteté, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est tout simplement indispensable de mettre de l'ordre dans ces choses. Et puisque nous insistons là-dessus, qu'il soit dit encore une fois, tous ceux qui se moquent de nous parce que nous sommes assez sots pour accorder notre foi à un homme, se seront trompés. Nous n'avons pas accordé notre foi à un homme, nous avons seulement reconnu, et cela par grâce, que Dieu a envoyé ses serviteurs tant dans le passé que dans le présent. Et notre Seigneur a dit, celui qui vous écoute, c'est moi qui l'écoute, et celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Matthieu 10, 40 et Luc 10, 16. Et celui qui m'accueille, c'est celui qui m'a envoyé qui l'accueille. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Et lorsqu'il y a un envoi divin et un mandat divin, nous devons alors faire preuve de respect et écouter ce que Dieu a à nous dire par l'intermédiaire de ses messagers et de ses serviteurs. Pour conclure, revenons sur le passage qui nous a été lu, la première épître de Jean. Comme chaque verset, chaque parole est ici précieux sur lequel on pourrait s'arrêter. Ce qui était dès le commencement. 1 Jean 1, verset 1. Dites-le vous-même. Y a-t-il eu une nouvelle, une quelconque nouvelle révélation dans le message divin? Non. La parole ancienne et les mystères cachés dans la parole ont été révélés, mais rien n'a été ajouté aux Écritures. Verset 1. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. Verset 2. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Il existe tant de passages bibliques qui en témoignent. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il a prononcé ces paroles. Les paroles que je vous adresse sont esprit et vie. Et ses paroles ne reviendront pas vides, mais elles accompliront toujours et à chaque fois ce pourquoi elles ont été envoyées. En ces jours, nous avons le privilège que Dieu nous a accordé d'entendre la véritable parole de Dieu. Pour beaucoup, cela peut paraître nouveau ou étrange, mais c'est écrit ici. Et heureux l'homme qui peut approuver Dieu en son fort intérieur et lui donner raison. Personne ne devrait se dire en son fort intérieur, « Oh, ah oui, je sais déjà tout cela. » Et peut-être même encore mieux, il y a une parole du prophète Ésaïe où il est écrit, toi non plus, tu n'en savais rien auparavant. Ésaïe 48, verset 7. Il faut simplement en arriver à s'ouvrir pour recevoir ce que Dieu a à nous donner. À nous donner. Résumons. La fin des temps est là. Elle touche à sa fin. D'une part, pour l'Église des nations, puis viendra le tour pour Israël. Et comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, si en Israël aussi toutes ces choses sont déjà aussi avancées, à quel point la venue du Seigneur doit-elle être proche? Nous savons tous que le temps touche à sa fin. Personne ne peut dire exactement combien de temps cela prendra. Soulignons encore une fois ce que nous avons lu dans Luc 21. Nous devons demander de tout cœur et avec sincérité à Dieu de nous accorder la puissance qui transformera nos corps mortels, la puissance de Dieu, que cette même puissance, celle qui a fait sortir Jésus d'entre les morts, qui a transformé son corps mortel, en corps de résurrection, que cette puissance divine de résurrection nous soit accordée par grâce, afin que nos corps mortels soient eux aussi transformés et rendus vivants, et que nous puissions alors entrer dans la gloire avec ceux qui nous ont précédés et qui ressusciteront premièrement. Que Dieu, le Seigneur, nous accorde cela par grâce et nous bénisse tous comme il a toujours fait et le fera toujours, qu'il affermisse sa parole en chacun de nous et nous donne par le Saint-Esprit le témoignage que ce n'est pas ici un homme qui enseigne d'autres hommes, mais que c'est Dieu qui nous enseigne par sa parole, par la révélation de l'Esprit, selon la parole de l'Écriture. Ils seront tous enseignés par Dieu, et nul n'aura besoin d'enseigner son prochain. Que le Seigneur, notre Dieu, soit loué et glorifié pour l'éternité. Amen. Levons-nous et rendons gloire au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour le privilège de pouvoir nous rassembler sous l'écoute de ta parole. La parole que tu nous adresses n'est pas une parole dénuée de sens. Non, c'est une parole engageante de Dieu à son peuple, une parole d'alliance. Seigneur, nous t'en rendons grâce et nous te louons. Nous souhaitons accueillir en nous du fond du cœur toutes les paroles qui sortent de ta bouche et en vivre, qu'elle soit notre nourriture spirituelle, une lumière sur notre chemin, qu'elle soit notre ligne directrice, qu'elle soit tout pour nous. Seigneur, si ta parole ne devait plus avoir de valeur, sur quoi ma foi pourrait-elle reposer? Je ne me soucie pas de mille mondes, mais de mettre ta parole en pratique. Seigneur, nous te remercions de tout cœur d'avoir eu dans notre génération un prophète de la parole, un homme de Dieu, Seigneur bien-aimé, par qui tu as pu parler et remettre les vérités bibliques sur le chandelier. Tu as un peuple sur terre, tu as des élus qui écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, sois miséricordieux envers nous, aie pitié de nous, continue de parler et agis par ton Saint-Esprit et donne-nous la puissance d'échapper à tout ce qui va s'abattre sur le monde afin de nous tenir devant toi. Seigneur bien-aimé, ensemble, nous te présentons tous ceux qui ont encore des difficultés avec eux-mêmes ou avec la parole qui est prêchée. Nous te les présentons, Seigneur bien-aimé, prends soin de nous. Sois miséricordieux envers nous. Ouvre nos cœurs et notre intelligence et oins-nous de la puissance du Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Pour tout, pour la grâce par laquelle tu nous as sauvés, pour le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix à Golgotha, pour ta parole, pour ton esprit, agis au Seigneur, par ton sang, par ta parole et par ton Saint-Esprit, au sein de ton peuple de l'Alliance du Nouveau Testament. Bénis aussi ton peuple d'Israël d'une manière tout à fait particulière. Accorde-nous la grâce que ta volonté s'accomplisse en toutes choses. Une fois encore, nous te rendons grâce pour le grand privilège de pouvoir discerner les signes des temps, de respecter et d'accueillir le message et le messager. Reçois notre action de grâce au Seigneur. Reçois notre profonde gratitude qui jaillit de notre cœur et de la bouche de chacun d'entre nous. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. 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 Et que tout le peuple dise Amen. 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 Alléluia.
Alléluia. Amen.
Amen.